Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Honte Noire, l'émission polar, la plus rock de la bande FM. Ceci dit, la plus rock, mais ce soir, je crois que nous n'aurons pas l'occasion d'entendre beaucoup de musique. D'abord parce que le grand spécialiste de la musique de cette émission, Jacques, est absent pour aujourd'hui. Et puis aussi parce que on a la chance d'avoir deux romanciers qui vont nous rejoindre consécutivement, bien évidemment. Dans la première partie d'émission, nous aurons le grand plaisir d'accueillir dans quelques secondes Ingrid Astier pour son dernier roman. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, nous accueillerons avec grand plaisir Franz Bartelt aussi, pour parler de son dernier roman paru au Seuil dans la collection Cadre Noir. Donc peu de place pour la musique, mais Onde Noire, c'est au départ pour parler des romans noirs, ce qu'on va faire dans très très peu de temps avec Ingrid Astier. Donc Ingrid Astier, le roman, il s'appelle Haute Voltige. Ingrid Astier, bonsoir, on vient de me dire que ça y est, on peut vous entendre. Bonsoir Ingrid.
Absolument, je suis au bout de la voix.
Merci de nous rejoindre pour parler de votre dernier roman sorti, donc qui s'appelle Haute Voltige, paru récemment à la série Noire chez Gallimard. C'est le troisième. Bon, certains disent une trilogie après Quai des Enfers et Angle Mort, paru précédemment au même éditeur. Pour vous situer, pour vous présenter en deux mots, études littéraires, profession écrivain, et j'ai envie de dire surtout, passionné obsessionnel. Ça vous va?
C'est pas mal comme portrait chinois. Il faudrait rajouter peut-être aventurière et amoureuse de tout ce qui peut retenir l'écriture.
Oui, et amoureuse, ça va bien aller avec le thème que je vais vous proposer pour parler de Haute Voltige, parce que j'aime pas trop raconter les romans. Et Haute Voltige, je le vois un peu comme un rêve. Hein. Aussi bien d'ailleurs pour vous en tant que travail d'écriture que pour la majorité des personnages, tout au moins pour les personnages principaux, parce qu'il y a une pléthore de personnages secondaires. Et donc, on va commencer par votre travail. Ça a été long, 3 ans de travail.
3 ans et demi, même, oui.
Voilà, donc je crois qu'il y a d'ailleurs un autre projet. Ça vous intéressait tellement, ce que vous allez raconter dans Haute Voltige, que vous avez abandonné un autre projet.
Et donc, un coup de foudre littéraire.
Et donc, ça a été une écriture, je ne vais pas parler d'écriture automatique, mais cette façon, je reprends cette obsession d'écrire sur ces thèmes et ces personnages.
Moi, bon, c'était très difficile. On était vraiment loin de l'écriture automatique. Jamais je n'ai autant recommencé un début de roman, parce qu'en fait, il fallait que je trouve la voix du héros, qui était un héros très compliqué, parce que c'était le roi de ce qu'on appelle le vol par escalade. Donc, c'était un montant l'air qui est capable.
Quel joli mot pour le vol par escalade.
Comment ?
Montant l'air, on dirait que ça a été vraiment adapté pour eux, pour ces gens qui font du vol à la verticale.
Mais oui, c'est une très belle expression. Je trouve déjà que rien que l'expression, elle donne envie d'écrire, parce qu'il y a, cette direction vers le ciel, et puis en même temps, ça reste des voleurs, hein, mais quand même, c'est des voleurs d'un autre type, on va dire. Et puis là, il y a matière romanesque à créer un personnage incroyable, parce que la vraie source d'inspiration du Gecko, de Ranco, c'est un vrai cambrioleur qui a volé le musée d'art moderne de Paris. Après, je me suis vraiment éloignée de cette intrigue, et il fallait le temps aussi de cette dépossession, de fuir le fait divers, en fait, d'en garder juste l'empreinte, parce que mon travail, c'est pas du tout du copier-coller avec la réalité. Je suis pas du tout un écrivain documenté, je suis vraiment un écrivain du terrain et ensuite qui repossède l'inspiration par l'imaginaire.
Alors justement, l'imaginaire, et je parlais des rêves, les rêves que poursuivent vos personnages. On parle du personnage principal, Ranco, Serbe, on l'appelle, beaucoup de gens l'appellent le Gecko, puisque voilà, il peut grimper, il a une facilité, une appétence pour grimper le long des murs absolument fantastique. Il passe par les toits de Paris pour cambrioler nuitamment. Quel est son rêve? Quelle est son inaccessible étoile, lui, finalement?
Bah, lui, c'est d'être libre, et en ça, je me suis aussi profondément inspirée de Patrick Edlinger, qui était le modèle du vrai monte en l'air de cette histoire, et qui est aussi un modèle personnel, un modèle familial, parce que dans ma famille, l'escalade est au centre de tout, et je n'avais pas pioché bien loin. C'est mon frère aussi un passionné d'échecs, donc on a une grande place qui est faite aux échecs, ce qui est assez inédit aussi dans le roman policier, avec une vraie partie d'échecs qui a été bâtie avec deux grands joueurs internationaux, dont un vice-champion de France. Donc ça aussi, c'était un sacré pari de se dire, bon, on va vraiment faire un roman où on a des mondes très différents. On a la boxe avec un combat de boxe.
Ah, il y a une scène au milieu absolument extraordinaire, tout droit inspirée d'une bande dessinée.
Oui, en même temps, c'est inspiré d'Enki Bilal, qui a créé le chess boxing en liant des rounds de boxe avec des parties rapides d'échecs. Donc ça, c'est vraiment déjà capable d'être autant fort aux échecs qu'à la boxe, c'est un héros complet. Donc ça aussi, c'était un pari vraiment de, comme j'aime le faire, un pari cousu main de bâtir un combat de boxe aussi qui corresponde à chaque personnage et qui soit pas un combat qui existait ou des bribes de combats existantes, mais en travaillant aussi avec un vice-champion de France de boxe.
Oui, on sent que c'est pas documenté, mais chaque scène, chaque point, chaque détail, y compris un repas absolument extraordinaire à bord d'une péniche, chaque scène, vous l'avez minutieusement. Alors, une question que j'allais vous poser tout à l'heure, le roman est construit pour moi, entre autres, autour de trois scènes dantesques. La première qui est donc un vol très violent d'ailleurs sur une autoroute. On poursuit des voitures et on récupère un magot. Il y a des morts. On kidnappe une jeune femme.
C'est une attaque de l'intelligence moderne pour moi. C'est vraiment. Je me dis, j'adore les westerns et j'ai manqué pour rien au monde quand j'étais petite l'attaque de la diligence. Et
c'est
je me disais, ben tiens, comment est-ce qu'on peut faire une attaque de la diligence moderne, mais qui serait la rencontre, on va dire, de la diligence et de Heat en fait. Ce film aussi sur ces braquages comme ça, c'est ça
avec
qui m'intéresse.
La vitesse.
Voilà, c'est comment être moderne aussi dans ce regard-là.
Ensuite, au milieu, donc, cette scène qui va quelque part faire basculer le héros, Ranko, parce que là, on peut vraiment parler de héros. Des fois, on parle de personnage principal, mais Ranko, c'est un beau héros. Donc, cette scène de chess boxing qui marie à la fois donc les échecs et la boxe, c'est quand même très éloigné, mais aussi une scène de foule.
C'est vraiment le tempérament serbe, en même temps. C'est le tempérament de l'Est, hein, où on croise des jeux d'échecs à chaque coin de rue et où la boxe fait partie de la culture. Donc là, en fait, on rejoignait aussi vraiment cette étrangeté serbe.
Et cette scène, il y a le premier plan avec les deux personnages qui vont s'affronter, donc un bout d'échec, un round de boxe, et puis il y a l'arrière-plan. J'imagine que si un jour un réalisateur, il va se dire, oh là là, mais il va falloir trop de... Mais on a l'impression que ces scènes-là, vous les avez presque filmées d'avance. Vous les imaginez comment? Il y a des images mentales tellement elles sont d'une précision. On dirait qu'il y a une caméra qui se déplace avec votre plume, votre écriture. C'est absolument extraordinaire la description et l'évocation.
C'est très gentil. Oui, c'est vrai que il y a ce côté très image, en fait, fantasme en action, quoi. Vous parliez tout à l'heure de vision dantesque et je suis absolument d'accord avec cette caractérisation de dantesque. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même très fourmillant, il y a une fougue dans Haute Voltige. Moi, c'est le roman que j'ai écrit avec le plus de fougue. J'étais complètement transportée par ce héros qui est un peu le super-héros, hein. C'est Tyson, c'est en même temps Kasparov, en même temps c'est Edlinger, c'est un mariage quand même assez détonnant pour un héros. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il y a ce côté fantasmé, donc il y a des visions très très fortes, et vous avez tout à fait raison, ce sont des scènes qui ont servi à canaliser aussi le fantasme, à l'aimanter. Mais en même temps, je tiens à ce que ce soit pas uniquement cette impression cinématographique, c'est-à-dire que évidemment que la vue est très présente et qu'on peut le suivre, mais pas à pas le héros, même sur les toits aussi. Dans une scène que j'aime beaucoup, il rencontre une vraie personne pour le coup, qui est Simon Noguera, qui est l'actuel champion de France de parcours, de free run. Donc cette discipline où ils font des lignes parfaites sur les toits, des sauts périlleux, et Simon Noguera existe vraiment. Et en même temps, je voulais qu'on soit dans ce côté très visuel, très action, très enchaînement comme ça de super-héros, mais aussi qu'on soit dans quelque chose d'infiniment émotionnel. Donc il y a une palette qui elle est beaucoup plus intériorisée avec un nuancier que je pense le plus poussé par rapport à ce que j'ai fait jusque là.
Et justement, une question que j'avais préparée, c'est de voir que y a des scènes très belles, mais il y a des scènes aussi des gens qui sont quand même des pourris, des salauds.
Ah,
et même dans les scènes les plus violentes, il y a un parti pris de la beauté et de l'élégance.
Oui, alors parfois avec des comportements quand même extrêmement tranchés et frustres, parce qu'on a quand même des scènes. De découpage de corps avec des gens qui sont complètement mais comme des enfants à jouer avec des pelleteuses, donc c'est quand même on peut pas dire qu'on soit dans le raffinement, dans la méthode.
Non, mais bon, on se souvient de quelques scènes chez les frères Cohen où avec cette distanciation on passe plus à l'esthétique qu'au gore.
Voilà, on n'est pas dans le gore parce qu'il y a un
tout
vrai rachat par l'humour, en fait. Il y a eu un gros travail aussi sur l'humour. Je pense que c'est le roman que j'ai fait qui a une vraie... J'ai eu une vraie envie aussi qu'il y ait des scènes qui fassent rire, comme une leçon de pâte carbonara avec des crapules. Il y a ces deux crapules, un albanais et un italien, qui vous apprennent à faire des pâtes carbonara, dans des situations assez rocambolesque. Là, on est dans une sorte de truculence populaire, comme j'aime le faire aussi, parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler la langue populaire.
Oui, bon, y a beaucoup de scènes d'ailleurs où on retrouve un petit peu cette gouaille dans l'écriture. Il y a un travail sur l'écriture parce que vous changez de narration à 180 degrés très souvent, et on passe d'une écriture très poétique. Je trouve qu'à un moment donné, ça slame. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé vraiment des rimes.
Absolument. Il y a beaucoup de rimes internes, en fait. Il y a tout un travail de jeu d'écho. C'est très finement vu, ça.
Voilà. Et puis ensuite, parce que, on a changé de bout de trottoir, parce qu'on a changé de personnage, tout d'un coup, on se retrouve, pas tout à fait, mais on est dans la gouaille des tontons flingueurs. Et il y a, je trouve, des scènes qui sont un très bel hommage au film noir des années 50.
Ah, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis pour le pousser un petit peu aussi plus loin, je dirais que même quand je suis dans cette verve populaire, j'essaie de garder aussi cette empreinte de la poésie et des rimes, parce que c'est aussi ce qui fait la force du langage populaire. C'est d'un seul coup, il y a une sorte de cadence de musique. Et je vous prends juste un exemple. C'est un moment, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Astrakhan, qui est un peu une sorte de parrain qui est aussi un peu le mentor du Géco, et qui dit, par exemple, voyez, il dit, je me souviens, j'ai ça encore en tête, il dit, moi je fume, je bois, mais le cancer veut pas de moi. Et là, on peut pas dire.
Et là, on a un rythme.
Voilà, et on a une rime, en fait. Hein, moi je fume, je bois, mais le cancer veut pas de moi. Et en même temps, on est dans une phrase très simple, mais c'est une phrase qui est très cadencée, et c'est ça que je voulais atteindre dans votre Voltige. C'est à la fois des moments très poétiques, de suspens, parce que c'est intériorisé, mais que ça concourt à vraiment approcher de très près les personnages, ce qui fait qu'il y a une jouissance pour le lecteur de sentir dans les personnages dans ce roman. Et puis en même temps, il y a aussi beaucoup de travail sur des proverbes serbes, parce que ça, c'est très exotique pour nous, on n'entend jamais des proverbes serbes.
Non, surtout, il faut que je les avoir traduits en plus quand même, malgré tout.
Oui, et puis ça, c'est du vrai travail de terrain. Encore une fois, c'est pas de la documentation, c'est pas du Wikipédia, c'est en trouvant des volontaires de guerre serbes, c'est en passant beaucoup de temps avec eux. Et là, on apprend des poèmes, des proverbes magnifiques, comme si tu te lèves tôt le matin, tu attraperas de bonheur. Je trouve que c'est superbe. Hein. Et en même temps, c'est des gens dont on a une vision très différente, parce qu'elle a été complètement desséchée par
les médias. On peut dire certains médias,
exactement.
Tout à fait, par rapport aux événements, par rapport à l'histoire récente. J'aimerais qu'on revienne au personnage, parce que justement, il y a Astrakhan, donc qui a un rapport familial avec le Géco, qui va l'aider, l'employer, qui va courir à son ascension et à sa perte. On va laisser les lecteurs découvrir tout le destin du Géco. Et puis, il y a cette femme. Alors, la sublime Ilana, qui était dans le convoi, on a parlé de l'attaque de la diligence au début, cette superbe Ilana, Au départ, elle va suivre ses assaillants, tomber amoureuse du chef, Astrakhan, un truand d'ailleurs plein de rêves. Lui dit que s'il rêve pas sa vie, c'est pas la peine.
Oui, exactement. Oui, c'est lui. Il incarne. Alors, ça a beau être un vrai truand, et encore une fois avec beaucoup, beaucoup de défauts.
Hein. Oui, beaucoup de violence. Il y a quelques cadavres derrière lui, quand même. Hein.
Exactement. Il est très ami des cimetières. Donc, ça reste quand même quelqu'un de peu fréquentable. Et en même temps, il porte pour moi des valeurs qui sont presque philosophiques. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'était d'avoir aussi des personnages secondaires très nuancés où on peut pas dire si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Et ça aussi, ça démoralise le roman. Donc, c'est important de pas être dans un parti pris moraliste. Et ça, c'est un personnage qui, en même temps, est un grand jouisseur et qui, je l'ai doté de valeurs qui pourraient presque être les miennes.
Ah ben, en tout cas, la recherche de la beauté et de l'esthétisme, ça vous convient et ça lui convient fort bien. Et Ilana, oui. Donc, qui rencontre Astrakhan, c'est aussi quelqu'un qui peut être très déstabilisant, parce que on pourrait la prendre au début une femme objet, perchée qui allait sur ses louboutins, mais c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Comment vous l'avez construite, ce personnage d'Ilana ?
Mais en fait, je me suis dit que souvent, on faisait tout un parcours où on, peu à peu, on se rendait compte que le personnage n'était pas aussi fort que ce qu'on pensait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour une femme de partir de sa fragilité. C'est-à-dire de partir d'un moment de sa vie, d'un moment seuil, où elle ne sait plus très bien où elle en est, où elle est complètement à côté de la plaque par rapport à une vision claire de quoi j'ai envie dans la vie. Et de me dire que c'est de cette fragilité que va naître finalement toute sa force et sa puissance de séduction. Et Ilana, c'est un peu le porte-poisse rêvé de tout homme. C'est-à-dire que c'est une très belle femme, mais en même temps extrêmement mystérieuse. Mais on sait qu'approcher cette beauté, c'est...
Elle est vénéneuse.
Elle est vénéneuse, voilà, c'est un peu la plante... La plante qui sent très très bon, mais si vous ingurgitez une partie de la plante, c'est une toxicité redoutable. Donc mais en même temps, elle vous promet l'intensité.
Donc ça intensité, aussi, il vaut mieux avoir quelques moments de bonheur que pas de moments du tout.
Voilà, c'est qu'elle préfère passer sa vie en passant, sans être vraiment participant, et puis en regrettant ses choix, ou est-ce qu'on préfère vivre quelques mois de sa vie avec une femme qui vous fait rêver et qui vous promet l'intensité à chaque moment. Donc ça, c'est un peu le pari de Faust, finalement. Vous savez, le Faust de Goethe, hein. C'est un pari sur...
Va-t-on faire le pacte avec le diable ?
Voilà, donc c'est un peu le pacte avec le diable, et en même temps, ils sont presque tous ces hommes qui la...
Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il nous reste juste une minute et demie. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le personnage qui est au milieu, qui est en face, en fait, qui est le flic, qui est Stéphane Suarez. Ah oui. Là aussi, on a une obsession. Le Gecko est devenu son obsession. Il rêve de le pincer, mais pas tant que ça, parce qu'il a une admiration sans borne pour ce montant en l'air.
Et oui, et là, ce qui était beau, c'était de créer un jeu de miroir, finalement, entre cette quête du flic et puis, finalement, une forme de liberté totale qu'incarnait le Gecko. Donc, il y a un jeu de miroir qui est, à mon avis, très beau entre les deux, où on sent beaucoup de respect, parce que, finalement, c'est aussi... C'est un cambrioleur, certes, mais un cambrioleur de haut vol.
Voilà, et puis le flic, alors moi, j'aime pas trop les flics dans les romans policiers, là, parce que c'est un roman noir. Mais là, franchement, Stéphane Suarez, il donne envie qu'on le connaisse. On a presque envie de le rencontrer, cet homme. Il a quelques très bons côtés. Ingrid Astier, merci beaucoup. Je vais rappeler le titre du roman Haute Voltige, série noire Gallimard, un roman en état d'apesanteur. Alors que c'est un roman de 600 pages, mais quand on l'a commencé, on n'arrête pas. Ingrid, merci beaucoup, et puis j'espère
merci
à très bientôt.
À vous.
Au revoir.
À très bientôt et bonne lecture à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.